Bonjour à tous. Merci Pierre pour cette entrée. Merci au Seigneur pour tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Quand on est jeune, souvent maladroit, peu apte à dire clairement les sentiments qui habitent le cœur, on peut se servir, par exemple, d'une chanson d'amour pour exprimer ses sentiments vis-à-vis de l'élu, de la personne rencontrée. Il arrive que l'on recopie ces mots qu'on a entendus et qu'on envoie ce petit mot à la personne qui fait battre notre cœur. Souvent dans la jeunesse, les plus spirituels s'inspirent du Cantique des Cantiques. L'idée derrière cette démarche est de dire qu'il ou qu'elle représente quelque chose de particulier pour nous, la personne à qui on adresse ces paroles. Et parfois, ces mots vont au-delà de notre pensée, parce qu'elles sont tellement fortes. Mais elles expriment l'agitation, mais aussi cette joie que nous avons dans le cœur, que les hommes ne voient pas, et qui pourtant est réelle. Ce matin, je voudrais partager avec vous les élans profonds du psalmiste vécu dans la présence du Seigneur. L'auteur du psaume 84 permet au lecteur de découvrir la réalité qui habite son cœur. La Bible déclare, au sujet de l'homme, « Sa bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Avant de lire au psaume 84, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire encore ce matin. Nous voulons recevoir afin que nos cœurs soient interpellés, afin que nos vies soient changées, afin que nous puissions t'honorer parce que tu es Dieu. Ouvre nos oreilles et remplis notre cœur de ta présence afin que ce que nous entendions révèle qui tu es et nous donne de te servir comme tu le mérites. Par Jésus. Amen. Nous sommes au psaume 84. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels éternels. Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, tu es notre bouclier. Vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil, sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Nous avons introduit ce temps de réflexion par une question sentimentale. En réalité, le psalmiste est dans une démarche d'adoration. Il est question d'une réalité, un vécu, une relation entre un homme et son Dieu, en un lieu précis. J'imagine que vous l'avez deviné, notre réflexion sera donc en deux points. Le premier concerne l'Éternel et le deuxième concerne la maison de l'Éternel. Le psalmiste, dès le verset 2, présente, en tout cas il plante le décor. L'Éternel est le maître de l'univers. Dans le livre de la Genèse, nous lisons en Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et tout le chapitre premier de la Genèse décrit comment Dieu crée l'univers. Et donc, le psalmiste exprime ici une vérité qui ne fait pas l'unanimité. Pourtant, Dieu est le maître de l'univers. Puisqu'il est créateur, il a autorité sur tout ce qu'il a créé. Et l'expression « maître de l'univers », parfois traduite par « l'Éternel des armées », est répétée dans ce psaume, verset 2, verset 4, verset 9, verset 13. Et elle révèle quatre vérités. La première, l'Éternel est souverain. L'Éternel est omniscient. L'Éternel est sauveur. L'Éternel est miséricordieux. Quand on parle de la souveraineté de l'Éternel, nous avons au psaume 115, verset 3, qui déclare ceci. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » L'Éternel est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut contester devant sa face. Il n'a besoin de personne pour justifier son action, ses décisions. Et ce qui est paradoxal, ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu créateur puissant se traduit, se manifeste par humilité en venant à travers la personne de Jésus-Christ pour exprimer à sa création son amour. L'omniscience de l'Éternel est décrite en Hébreux au chapitre 4 et le verset 13. Il est dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » L'auteur de l'Épître, en tout cas de la lettre aux Hébreux, nous invite à une vie sincère devant l'Éternel. Nous ne pouvons rien lui cacher. C'est en cela que l'hypocrisie ne sert à rien devant Dieu. Parce qu'il sait toute chose. Tout est à nu devant l'Éternel. La troisième chose de l'Éternel que le psalmiste nous révèle, c'est que ce Dieu est le Dieu sauveur. Nous connaissons Jean 3, verset 16, n'est-ce pas ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu donne son salut à celui qui met sa foi en Christ. La quatrième vérité que nous découvrons à travers ce Dieu créateur, c'est la miséricorde. Et le Proverbe 10, verset 20, dit ceci, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui appartiennent à Christ, peuvent goûter à cette grâce qui touche notre vie spirituelle, notre vie matérielle et nos relations les uns avec les autres. Et le psalmiste poursuit sa description de ce Dieu parfois que nous connaissons mal. Et il nous révèle que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Ce n'est pas naturellement que l'humain ressent cette attraction pour Dieu. L'âme du psalmiste soupire et languit. Sa vie ne tourne pas autour de sa personne. Sa vie manifeste l'action de Dieu. Une vie faite de la foi que Dieu lui insuffle. C'est Dieu qui guide ses actions. C'est Dieu qui guide sa pensée. Et on pourrait mettre dans la bouche du psalmiste ces paroles de l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et le psalmiste peut alors écrire, « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Pousser des cris vers le Dieu vivant, pousser des cris vers le Seigneur, c'est certainement louer l'Éternel. Mais c'est aussi compter sur lui en toutes circonstances. La foi du psalmiste l'amène à toucher du doigt la réalité d'un Dieu vivant. On raconte l'anecdote d'un président qui s'est amusé avec des populations sérieusement paupérisées. Dans ses déplacements, il est arrivé dans une région avec, dans sa voiture, des liasses d'argent. Et les populations, forcément, quand elles voient une voiture, un cortège qui arrive, elles s'agglutinent autour. Et c'était qui ? C'est le président qui est là. Et qu'est-ce que le président leur dit ? Il leur dit, mais je vois que vous priez beaucoup. Et cependant, vous êtes si pauvres. Priez Dieu. On va voir s'il va agir. Et les pauvres populations ont prié. Et il leur demande, et vous avez vu quelque chose ? Et il leur dit, priez-moi. Et vous verrez ce qui va se passer. Et les pauvres populations se sont mises à prier cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti les liasses de billets qui étaient dans sa voiture et il les a jetées. Il leur a distribué cet argent. Les amis, nous avons un Dieu vivant. Le psalmiste en témoigne fortement dans cet extrait. Et le psalmiste nous enseigne que même les animaux trouvent un refuge auprès du Seigneur. Le passereau trouve une maison. Et l'hirondelle y construit un nid pour y déposer ses petits. Dieu est-il vivant dans notre vie ? Comme peut l'exprimer le psalmiste. Ou est-il le reflet de la pensée de ce président qui manipule des pauvres âmes ? Peut-être pour le dire plus clairement, comment Dieu est-il vivant dans ta vie ? Le psalmiste va un cran plus loin. Il considère Dieu comme roi, comme son roi, comme son Dieu. Et on rejoint ici le premier point qui met en évidence la souveraineté de Dieu sur sa création. Parfois, on se pose la question de savoir comment la souveraineté de Dieu s'applique dans la vie d'un humain. Alors on ouvre la parole de Dieu et on va regarder Abraham. Et on se retrouve en Genèse au chapitre 22, au verset 2, qui dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à Abraham, il dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Quelle est la réponse d'Abraham face à cette injonction de l'Éternel ? Le texte poursuit au verset 3. « Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Voici l'exemple d'un homme pour qui Dieu est roi. Un roi avait autorité de vie et de mort sur la vie de ses serviteurs. Et qu'est-ce que fait Abraham ? Abraham obéit. Abraham obéit et montre ainsi que Dieu est Dieu. Il montre ainsi que Dieu est roi de sa vie. Il obéit à l'Éternel sans discuter, sans débattre, sans apporter des raisons. Parce que c'est l'Éternel qui décide de ce que devrait être sa vie. Abraham a attendu pendant tant d'années la venue d'Isaac, et quand il s'installe, quand il pense que maintenant c'est acquis, Dieu lui dit, « Offre-moi ton fils. Donne-le en holocauste. » Abraham a expérimenté cette relation avec un Dieu vivant. Plus près de nous, nous connaissons des, ne serait-ce que par les ondes, des hommes et des femmes qui chaque jour paient de leur vie la relation qu'ils entretiennent avec le Seigneur. La réalité de l'Église persécutée a lieu au Nigeria, en Inde, en Chine. C'est parfois si loin de nous qu'après qu'on ait vu ces images de portes ouvertes, eh bien, dès que la retransmission est terminée, on a vite fait d'oublier. Parfois même, on refuse d'entendre les témoignages de ces personnes parce que cela choque notre confort, parce que cela nous dérange. Nous voulons rester dans ce qui nous fait du bien à nous. Le psalmiste entretient une relation avec Dieu qui vit. Et s'il vit, cela veut dire qu'il parle. Il interagit avec ceux qui lui appartiennent. Jésus déclare, « Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. » La relation entre Christ et ses brebis est une relation vivante. Jésus connaît ses brebis comme elles le connaissent. Elles sont dans ce lien, dans cette relation, dans cette intimité. Et de ce lien découle quoi? L'écoute et l'obéissance à sa parole. Le psalmiste nous présente en quatrième point le Dieu soleil qui apporte la lumière. Nous savons que la vie n'est possible que parce qu'il y a la lumière. Nous voyons cela à travers les plantes. Si vous mettez une plante dans l'obscurité, elle mourra très vite. Lorsque vous mangez des fruits en hiver, en tout cas certains fruits, ils sont fades. Lorsque vous mangez des fruits et que vous allez peut-être dans ces pays chauds et que vous mangez ces fruits, les mêmes, je vous garantis que le goût est différent. Et nous voyons même, quand l'été est là, l'attitude des humains change. J'ai une collègue qui est rentrée de congé il y a quelques semaines et elle était toute radieuse. La semaine dernière, elle a apporté des cookies pour tout le monde. Et je lui ai dit, « Ah ben, ce serait bien qu'on t'accorde des vacances de temps en temps et que tu ailles au soleil. » Et nous voyons cela, le soleil, la vie. Ce que le psalmiste souhaite transmettre, c'est la qualité éclairante de Dieu, de cette relation avec lui. Vous connaissez ce cantique qui dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. » Voulez-vous marcher avec assurance? Il ne s'agit pas d'une assurance orgueilleuse, mais d'une pleine dépendance au Seigneur. Eh bien, c'est par la foi. Cette foi, le psalmiste l'exprime complètement quand il déclare « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Il nous est difficile de tout donner au Seigneur. Nous aimons avoir le contrôle. Nous voulons décider. Nous voulons que cela se passe comme nous l'avons prévu. Quelle est la part de Dieu dans mes décisions? A-t-il encore seulement quelque chose à dire dans mes choix de vie, dans la conduite de la communauté, dans l'organisation au sein de ma famille, dans le choix de mes études, dans le choix d'un métier, d'un conjoint. Et nous chantons souvent ce cantique, « Entre tes mains, j'abandonne tout ». Est-ce que nous pensons seulement ce que nous disons? Le psalmiste veut rassurer celui qui doute encore. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et ce qui est d'autant plus rassurant à la lecture de ce psaume, c'est que le psalmiste, il n'est pas triomphant. Les versets 7 à 8, nous lisons au sujet de ceux qui trouvent leur force en l'Éternel que lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Celui qui croit en Dieu connaît les difficultés, connaît la souffrance tout au long de son chemin. Cependant, le bouclier que l'Éternel garde, ce qui compte, c'est comment le chrétien, le croyant marche sur ce chemin. Le cheminement forge le caractère. C'est la volonté de Dieu que nous puissions cheminer. L'Éternel peut donner des solutions à tous nos problèmes. Ça ne lui coûte rien. Mais Dieu n'est pas de ces papas gâteux qui font tout à la place des enfants. Dieu souhaite nous voir construire, construire notre caractère, construire notre personnalité. Notre Dieu est un Dieu qui éduque. La Bible déclare, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Les souffrances des croyants ne peuvent les mener à abandonner la foi. Dans la souffrance, la parole de Dieu, elle est constante. Le Seigneur est un bouclier. L'Éternel est bon. Il fait grâce. Il entend les prières. La question est celle de notre persévérance. Dans le cheminement, dans l'épreuve, celui qui croit voit sa force augmenter. Est-ce que nous croyons cela? Que si nous marchons sur ce chemin avec persévérance, en comptant sur l'Éternel, notre force augmente, notre fermeté dans la foi est plus forte. Pourtant, nous avons des exemples. L'Église persécutée manifeste cette réalité. Les croyants vivent d'une foi audacieuse, une foi qui renverse les montagnes. Le journal anglais The Telegraph relaie une étude d'un professeur de l'université de Purdue, dans l'État de l'Indiana. Selon cette université, d'ici 2030, en Chine, on aura à peu près 247 millions de Chinois qui auront donné leur vie au Seigneur. D'ici 2030, nous sommes en 2026, dans 4 ans. Et il montre ainsi que la volonté de Mao d'éteindre la foi, elle est un échec complet. Pourtant, ce n'est pas des moyens de contrainte qui ont manqué. Dans l'épreuve, le Seigneur se montre fidèle. Dans la difficulté, la parole de Dieu se réalise pleinement. Ce Dieu vivant agit encore aujourd'hui. On peut se poser la question, où se trouve ta sécurité? Est-elle dans ton intelligence? Dans tes manœuvres? Sur ton compte en banque, peut-être? Le choix du psalmiste est sans détour. Verset 11, il dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. L'apôtre Paul le dit aussi, « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Le monde dans lequel nous vivons considère les croyants comme de la viande à croquer, des gens simples. Et parfois, certains chrétiens disent « Il est temps que nous aussi nous montrons des crocs. » Malheureusement, nous n'avons pas de référence biblique qui enseigne cela. Jésus déclare « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Je ne sais quel écho ces paroles ont dans vos cœurs. Il arrive que l'on ne reconnaisse plus les paroles des hommes de Dieu, des paroles chargées de violence, des paroles empreintes d'agressivité, parfois même des mensonges, de la manipulation, etc., etc., des gens, des personnes qui se disent habitées de la présence de Dieu. Le psalmiste oppose clairement le choix pour Dieu à la méchanceté du haut et au mal. Il préfère le seuil de la maison de Dieu. On peut imaginer que sur le seuil, la pluie, le soleil, les intempéries s'y abattent. Et cette place, dit le psalmiste, est préférable que d'être sous la tente, sous les tentes de la méchanceté. C'est-à-dire que même couvert, ça ne vaut pas la peine si le contenu ne reflète pas la présence de l'Éternel. Alors il est préférable d'être sur le seuil. Pour clore cette première partie, du psalmiste au sujet de Dieu, nous retenons ces quatre choses. Dieu créateur, maître de l'univers, Dieu vivant, un Dieu personnel, un Dieu lumière et bouclier. La seconde section de notre réflexion porte sur la maison de l'Éternel. Et là aussi, nous voyons que cela revient. Verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, verset 11, qui relate cette réalité. Et en même temps, ces versets nous permettent de rentrer dans les béatitudes. Nous avons ce mot, cette expression « heureux ceux qui ». Et nous voyons cette maison de l'Éternel, dès le verset 2, une maison accueillante pour tous. Rien n'est comparable à ce lieu de vie et de joie. La maison de l'Éternel représente une douceur que l'on ne peut trouver ailleurs. C'est le lieu d'une beauté sans pareille. Elle reflète la gloire de celui qui y habite. Mais où se trouve cette demeure? Serait-ce à Jérusalem? Les cris du psalmiste traduisent bien qu'il n'est pas question d'un lieu en particulier, mais d'une personne, d'une rencontre. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Celui qui invoque l'Éternel, l'Éternel ne reste pas sans réponse. La maison de l'Éternel est un lieu sécur. Le moineau, qui est un oiseau solitaire, y passe du temps. L'hirondelle, qui est un oiseau agile, mouvementé, y trouve un lieu de refuge. Et tous les deux, le moineau comme l'hirondelle, sont des représentations du pèlerinage du peuple de Dieu, un peuple isolé, solitaire, un peuple qui traverse le désert, un peuple qui est agité, mais qui, au final, trouve la paix dans la présence de l'Éternel. L'hirondelle, elle ressent tellement la confiance qu'elle va y construire un nid pour y déposer ses petits. Quel parent consciencieux, aimant, laisserait sa famille à la merci du danger. La maison de l'Éternel se présente ainsi comme un lieu de communion. La famille partage cette paix que donne le Seigneur par sa présence. Si ce temple accueille les animaux, à plus forte raison serait-il accueillant pour les humains. Pour le psalmiste qui a connu le temple, c'est en effet douloureux de ne plus y être. Peut-être que loin du temple, il apprécie mieux encore ce lieu de partage, de communion avec son Dieu. D'où cette première béatitude. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. De nombreuses communautés dans la ville de Bruxelles recherchent un lieu où se rassembler, un lieu où elles peuvent adorer, un lieu où elles peuvent crier à l'Éternel. Le psalmiste déclare « Heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel ». J'imagine que peut-être que certains viendront me trouver à la fin en disant « Oui, mais l'Éternel n'est pas dans les pierres ». Certes, mais un lieu de rassemblement est un endroit précieux. C'est un endroit utile. C'est un endroit fédérateur. On ne se pose pas la question « Où allons-nous nous rassembler ?» Et si seulement les sentiments du psalmiste pouvaient être les nôtres, probablement que nous vivrions autrement notre communion fraternelle dans ce lieu qui est un lieu particulier, chargé d'histoire, qui a demandé de l'énergie à ceux qui nous ont précédés. Ce lieu finalement qui devient un lieu pour lequel nous avons si peu d'intérêt, n'est-ce pas? La seconde béatitude se présente comme une consolation pour ceux qui sont privés de la maison de l'Éternel. Et le psalmiste refuse cependant de tomber dans des regrets, une sorte d'absence physique. Faut-il envisager de faire la route pour se rendre à Sion? Pour y adorer le Seigneur. Et ceux qui sont dans cette démarche, dans cet état d'esprit, trouvent la force pour accomplir le pèlerinage. La marche vers le Seigneur n'est pas un chemin solitaire. Comment pourrait-on parvenir jusqu'à lui s'il ne nous ouvre la voie du discernement? Ce chemin peut sembler difficile, complexe. En effet, il est question de la vallée des pleurs. Pourtant, au bout de ce chemin, au bout de ce cheminement, cette vallée est transformée en un lieu plein de sources, que la pluie couvre de ses bénédictions. Le chemin vers l'Éternel, ce n'est pas un chemin hasardeux. Il s'agit d'un chemin longtemps préparé à l'avance par le Seigneur. La vie par la foi est un chemin éprouvé et connu du Seigneur. Les psaumes, dans leur diversité, font état des émotions diverses qui traversent les psalmistes. Ce qui est constant, c'est la volonté, c'est la décision de marcher selon la parole de Dieu. C'est la décision, dans cette décision, que la foi et l'amour pour Dieu grandissent dans le cœur humain. Le psalmiste va en faire l'expérience. Bien que seul, il invoque l'Éternel. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Loin de Sion, pourtant si près de Dieu. Le psalmiste ressent cette présence rassurante de l'Éternel. Toi qui es notre bouclier. Dans les parvis de l'Éternel, un seul jour vaut mieux que mille ailleurs. Le psalmiste oppose le parvis aux tentes. Les parvis sont permanent et durable, tandis que les tentes sont provisoires. Et il n'y a pas à tergiverser. Nous enjoint le psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Le psalmiste conclut au verset 13 par cette troisième béatitude, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est en quelque sorte l'essentiel. Lorsque l'on a compris qui est l'Éternel, lorsque l'on saisit cette réalité, ces réalités dont nous venons de parler, comment ne pas se confier en l'Éternel? En conclusion, deux lectures. 1 Corinthiens 3, verset 16 déclare « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 6, verset 19 « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été racheté à grand prix. » Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le psalmiste pouvait goûter à la joie de la présence de l'Éternel, même si pour lui la nostalgie du temple demeure présente. Pour nous, la révélation est complète. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La nostalgie du temple est derrière nous. Les béatitudes révélées par le psalmiste nous donnent-elles envie de soumettre nos vies au Seigneur? Osons répondre avec profondeur et sincérité à cette question. L'invitation de l'apôtre Paul ne souffre d'aucune ambiguïté. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Je voudrais juste nous rappeler que si individuellement nous sommes le temple de Dieu, nous le sommes aussi collectivement. Et donc là, en tant que communauté, il y a une invitation particulière qui nous est adressée. Quelle vie menons-nous avec ce Dieu vivant? Est-ce que cette vie que Dieu insuffle au temple, au corps que nous sommes, est présente parmi nous? Est-ce que cela est la réalité qui est la mienne chaque jour que Dieu me donne? Que l'Éternel soit glorifié pour la vie qu'il nous accorde aujourd'hui et pour les jours qui viennent.